Armand Silvestre, conte d'hiver, Amorosa. Un tapis de neige, mais si léger que partout le gazon le percène mille flèches d'émeraude, et que le sable des allées, apparaissant au travers, lui faisait comme une doublure transparente d'or clair. Une poussière de neige, courant le long des branches noires, et saupoudrant les buissons comme des vieux rabougris sous des perruques surannées. Le soleil irradiant ses blancheurs furtives, promenant sur les troncs rugueux ses lumières décomposées qui les faisaient apparaître bleues à l'envers de sa course. Des lointains presque violets, très estompés de gris clair, rayés imperceptiblement par l'enchevêtrement des futaies. Et sur tout cela, la sérénité silencieuse d'une heure matinale. Jamais ce coin du bois ne m'avait paru si charmant, et le vol des souvenirs y descendait avec celui des moineaux et des mésanges, s'abattant sur les mousses avec de petits cris que pleurait la désespérance du printemps. Quelques jacinthes, çà et là, crevaient cependant la terre noire, et des bourgeons trop tôt venus perlaient aux branches. Un peu de patience, mes anges et moineaux, un peu de courage au cœur impatient de renaître. Après une longue promenade sous le fouet de l'air vif qui me piquait au visage, je m'étais assis sur un banc, dans un coin largement illuminé, ce qui lui donnait une impression de tiédeur relative. Mes yeux, fatigués de l'horizon scintillant où semblaient passer des vapeurs de givre, s'étaient abaissés vers le sol. Mille clartés roses me passaient sous les paupières et de minuscules étoiles d'or à travers les cils. Mon regard flottait avec ma pensée dans un vague très doux quand il s'arrêta soudain sur une place d'une blancheur immaculée que traversait un dessin bizarre tracé par la course d'un oiseau. Les petites pattes avaient semé comme un trèfle noir qui courait suivant une ligne capricieuse. On eût dit des hiéroglyphes, et je me pris le plus sérieusement du monde à vouloir déchiffrer cette mystérieuse écriture, à chercher un sens à ces caractères si nets et se succédant suivant un rythme inconnu. On a toujours sa bonne volonté pour complice du hasard dans ses enfantillages, et de la meilleure foi du monde, je lus un nom, comme si mon cœur était soudain tombé sur cette neige. L'oiseau tout seul était remonté dans la nue, sans y emporter mon âme. Et je me souviens d'un autre hiver dans ce même bois, d'un hiver où la neige aussi était partout, comme si un fleuve de lait se fût soudain ouvert au flanc de quelque montagne du ciel. Car les nuages sont comme les collines d'un paysage suspendu au-dessus de nos têtes, et souvent, semble-t-il, à l'horizon, prolonger les chaînes de nos collines terrestres dans la clarté rouge et moutonnante des couchants. Oui, c'était par un hiver tout pareil et dans un pareil décor que j'avais aimé pour la dernière fois peut-être. Une longue rêverie à deux, telle avait été l'histoire de cette tendresse. Des baisers furtifs en avaient été tout le langage, et la douceur m'en était restée comme celle d'un parfum bien pénétrant qu'on a respiré sans avoir cueilli la fleur qui le domina. Qui nous avait poussés l'un vers l'autre? Un hasard. Sans coquetterie, elle avait posé sa main sur mon bras, et nous étions partis pour je ne sais quel voyage, à la fois tendre et sans but, ne voulant savoir où nous allions pourvu que ce fût ensemble. Et tous les chemins nous étaient aimables pour marcher ainsi côte à côte, même ceux que la gelée avait fait durs, même ceux que la neige rendait froids et glissants. Quelquefois, il me fallait la retenir dans une étreinte où se fondait mon cœur. Souvent, sa jolie tête brune dut se coller à mon épaule pour fuir les foyers des bourrasques. Je respirais alors de si près son haleine qui me semblait que j'allais mourir. Jamais mes lèvres n'avaient osé se pencher jusqu'à son front, mais elle s'appuyait au bord de son chapeau, dans le frémissement de sa plume et dans le chatouillement de sa voilette. Nous étions l'idylle égarée, je ne sais de quoi de fou et d'innocent tout ensemble, mais de plus troublant, cent fois que l'ardeur des caresses. Que d'heures de passion virile, de plaisir âpre et partagé, sont tombées pour moi dans le gouffre de l'oubli, tandis que tout est resté dans ma mémoire de cet enfantillage cruel et délicieux. Telle s'engloutit dans les profondeurs d'un lac la splendeur pourprée des pierreries, tandis qu'une simple feuille tombée d'un arbre y surnage longtemps sur l'eau bleue qui la berce. Ô dernière feuille tombée de l'arbre optonal que je suis. Tout en elle était exquis, mais ses pieds tout petits et d'un dessin superbe, étaient d'un de mes platoniques ravissements. Une fois que nous marchions au hasard sur la neige durcie, elle s'amusa à engraver l'empreinte sur le sol, une empreinte bien nette, en y pesant de tout son poids. La semelle de sa bottine s'y moula et le talon y fit un creux. Elle eut grand-peine à m'empêcher de me mettre à genoux pour baiser cette trace. Mais ce qu'elle ne put faire, ce fut de m'empêcher de revenir le lendemain seul à cette place et d'y demeurer longtemps en contemplation devant ce rien fragile. J'y retrouvais comme un piédestal de marbre sur lequel se dressait mon idole, dans le temple tout parfumé encore de sa présence et de l'encens de mes adorations. Je la revoyais debout dans l'épaisseur moite de ses fourrures, d'où son noble profil émergeait comme sculpté dans un ivoire vivant, et le rayonnement clair de ses yeux, reflet d'améthyste, m'enveloppait. Un noyau d'extase attirait à soi tout mon sang comme le rayonnement du soleil boit la matinale rosée. Ce m'était une terreur qu'un autre pas vint profaner celui-là, qu'une neige nouvelle vint estomper puis anéantir ce contour, qu'une journée de chaleur emporta cette image dans des coulées indifférentes du dégel. Mais le lieu était solitaire et nul n'y passa de longtemps après nous. Le ciel ne roulait plus d'avalanches dans ses profondeurs ardoisées et le temps demeura froid durant plusieurs jours encore. Aussi, puis-je refaire quotidiennement mon pèlerinage, reprendre chaque matin mes courses dévotieuses vers cette relique étrange, n'osant confier à celle-même que mon culte patient adorait ainsi cet enfantillage de ma pensée toute remplie d'elle. Qui dira ce qui s'en va de notre âme dans ses aspirations muettes vers l'infini de l'amour, celui que ne comble pas même les délices furieuses de la chair rassasiée. Un jour vint, cependant, qui fondit la neige ainsi sculptée. Mais sa chaleur ne vint pas jusqu'à mon cœur, où l'empreinte est demeurée toute saignante encore du talent qu'il avait meurtri. Ainsi s'effaceront demain, après-demain peut-être, les traces qu'avait laissées hier sur la neige, à l'endroit que je regardais sans penser, la course capricieuse de la mésange et du moineau. L'oiseau s'est envolé, Dieu sait tout. Heureux ce qu'emporte dans l'azur le caprice vainqueur d'une aile toujours ouverte. Entre ciel et terre, il s'en va, aussi près du ciel qu'il lui plaît. Telle s'envole aussi ma pensée vers celle qui me donne la joie inattendue de l'aimer, comme je n'en avais aimé aucune autre, et qui m'apprit que le poète eut raison, qui dit « Ce sont les plus petites choses qui témoignent le plus d'amour. » En attendant les grandes, comtesse, cependant. »